Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Podcast Factory.
Bonjour à toi et bien sûr bonne année, on espère que 2019 sera une année douce et sexy, mais surtout douce et sexy. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de Yes, le podcast de Warrior. Tu le sais déjà, tous les mois on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme, et si c'est la première fois que tu nous écoutes, tu vas voir, ça fait un bien fou. Je suis Anaïs, et comme toujours, je suis en compagnie de ma team 24 carats. Salut Marga.
Ouais, salut Anaïs, bonne année.
Bonne année, salut Elsa.
Salut, bonne année à tous.
Bonne année, encore une fois. Dans ce 4e épisode, on va donc parler de sexisme en couple. On félicite d'avance les femmes qui ont osé prendre la parole car c'est pas évident de se raconter, les histoires qu'elles nous ont confiées sont super intimes et si on est encore avec le mec qu'on tacle publiquement, il faut une sacrée dose de courage. Et d'avance, on précise, on va parler uniquement de relations hétérosexuelles parce que forcément avec un tel sujet, on allait parler de mecs et parce que c'est dans ce cadre que le sexisme s'exprime majoritairement. Donc tout le monde ne pourra pas s'identifier et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de sexisme dans des relations homosexuelles ou autres. On va donc beaucoup parler de charge mentale, mais alors qu'est-ce que c'est? Je vous donne la définition qu'en fait Emma, c'est la dessinatrice qui a fait connaître cette notion en France grâce à sa BD Coup de gueule 3000. Elle nous explique donc, je cite, « La charge mentale, c'est la partie invisible des tâches ménagères, celle qui consiste à les planifier et non pas à les exécuter. Quand on est seul à porter cette charge, elle pèse très lourd car on doit penser à tout, tout le temps, et c'est particulièrement lourd quand on a un enfant car le moindre oubli peut avoir des conséquences pénibles. La personne qui porte la charge mentale se retrouve avec la responsabilité de répartir les tâches parmi les occupants de la famille, parfois d'insister, de négocier pour que ça soit fait, et pas n'importe comment. Alors souvent, pour gagner du temps et éviter des disputes, nous prenons aussi en charge l'exécution. » Voilà, c'est sa définition, on vous recommande d'aller voir son travail parce qu'elle questionne énormément de notions autour du sexisme, mais aussi de la classe et de la race sociale, c'est super instructif. On vous mettra tous les liens en description de l'épisode. Voilà pour le topo, et juste avant de démarrer, comme à chaque fois, on vous présente le feedback d'une auditrice qui nous a écrit sur Instagram.
Oui, alors on a déjà... Saper Elisabeth, j'adore ce pseudo. Bonjour les filles, je voulais juste vous raconter l'anecdote qui vient tout juste de m'arriver. J'écoutais le Yes épisode 3 en allant bosser et en arrivant, un de mes collègues de travail me fait une remarque. Tu vas tomber malade avec des jupes ras la chatte comme ça. Là, je l'ai regardé et j'ai juste dit, tu dirais la même chose à ta mère. Le gars s'est excusé. Bref, merci les filles de rebooster notre ego contre le sexisme ordinaire. Et ben, merci Saper Elisabeth.
Bravo à toi.
Bravo pour ce commentaire. Et un grand, grand, grand merci aussi à Pauline qui nous écoute depuis la Belgique et qui nous a envoyé un petit fascicule très, très intéressant qui s'appelle « Clouer le bec à l'antiféminisme » qui a été édité par une association belge qui s'appelle Garance et qu'elle nous a envoyé en fait suite au self-care que j'ai fait dans l'épisode dernier sur comment faire quand on est en famille et qu'on est la seule féministe autour de la table où je donnais quelques conseils pour résister. Et en fait, ce petit bouquin approfondit vraiment, vraiment cette question pour clouer le bec à tout ce qu'ils appellent dans le livret les personnes anti-féministes, c'est-à-dire les pafs.
Les pafs.
C'est le livret anti-paf et on anti-paf. Vous met le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir le télécharger gratuitement.
C'est gratuit. Ouais.
Voilà.
Merci beaucoup Pauline. Et bah, du coup, on démarre tout de suite. Elsa, tu nous présentes notre première warrior.
Oui, alors la première warrior, c'est Aurore. Aurore, c'est une jeune maman qui est super badass. Et quand elle est revenue de la maternité après avoir accouché donc de son premier enfant, son mec a une idée un peu spéciale. Je vous laisse découvrir.
Alors, nous, dans notre couple, ça a toujours été le partage des tâches, ils cuisinent, on fait les courses, enfin, j'ai jamais eu vraiment de sexisme en particulier. En tout cas, je l'ai pas ressenti jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. Et là, il y a eu plusieurs petites réflexions. Il était pro-allaitement, donc moi non, il le sait. Mais c'était, mais la maman a toujours allaité son enfant, ça s'est toujours très bien passé, c'est comme ça que la vie fonctionne, blablabla. Bon, ensuite, il y a eu aussi la partie, ah oui, c'est la femme qui se lève la nuit, parce que le congé maternité est plus long que le congé paternité, donc pourquoi elle s'embêterait à se lever ? À ça, je répondais toujours avec un petit sourire, en disant oui, on verra. Et je me disais que ce genre de récalage en douceur suffirait. Jusqu'au jour où j'ai accouché, donc je fais mes 3 petits jours en maternité, on rentre avec ma fille, et là je vois sur la table des boules caisses. Je lui demande à quoi ça va servir, parce que franchement j'en ai jamais vu à la maison, et il me répond tranquillement, le plus sereinement du monde, bah que c'est pour lui, pour la nuit, comme ça, quand la petite elle m'appellera moi, forcément, pour le biberon, bah lui il pourra dormir tranquille pendant ce temps-là, qu'il sera pas perturbé dans son sommeil. Et là, je pense que le baby blues m'a bien aidé. J'ai brillé. Je l'ai emmené dans la cuisine, je l'ai invité à s'installer sur la chaise et rapidement, il s'est retrouvé un petit peu interloqué, j'ai vu son visage un peu se décomposer. J'ai pris un biberon, j'ai commencé à le préparer de A à Z devant lui, fermement, sereinement, mais je pense qu'il a bien compris qu'il fallait pas m'interrompre. Et je lui ai demandé très franchement s'il pensait qu'il était nécessaire d'avoir un utérus pour faire ce genre de préparation. Donc là, il a bien été obligé de me dire non. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, ça va être très clair en fait, à partir de maintenant. C'est 1 sur 2. Si t'es pas content, c'est pareil. Parce que c'est hors de question que ce soit tout le temps maman qui prépare le biberon de bébé. C'est pas comme ça que ça se passe. On est en 2018. L'homme peut faire autant que la femme pour le coup. Du coup, il s'est retrouvé un petit peu bête. Moi, je me suis retrouvée super fière de moi parce que je pensais pas que je pouvais réagir comme ça. Je suis plutôt à toujours vouloir apaiser les choses. Je suis partie. Il s'est retrouvé tout seul dans son petit, dans sa petite cuisine avec son petit biberon à la main. Et à partir de là, je peux vous dire que le biberon de 3h du matin, bah, ça a toujours été lui qui l'a donné. Voilà.
Bravo Aurore.
Bravo.
Ah ouais, j'adore.
Quel alors, calme.
Ouais, et là franchement c'est assez inédit. Moi j'avais jamais entendu une histoire comme ça d'un mec qui va acheter des bouquets. Je trouve que c'est assez osé quand même.
Non mais le culot quoi. Normal, ouais. Le mec te dit au calme qu'il ne branlera rien en fait. Hein. C'est...
Non mais incroyable. Et effectivement, comme elle dit, peut-être qu'elle était dans un état particulier juste après avoir accouché et tout, et que c'était vraiment genre la goutte d'eau, genre non, ça va pas être possible en fait. Et effectivement elle a réussi à garder son calme. Moi je dis vraiment c'est impressionnant.
Ah ouais, j'adore le côté serein de la solution. Quoi. C'est très ferme, mais serein.
Mais c'est marrant aussi, souvent, quand on discute avec les copines, on se rend compte que c'est vraiment ce moment-là, en fait, du retour de la maternité, ouais. Où des couples voilà, plutôt égaux, dans la répartition des tâches, de la charge mentale, tout ça. Là, c'est le moment où tout change. Quoi. Le moment où en fait...
Faut redéfinir les règles.
Les règles, et où, en fait, de par le congé maternité, qui, comme elle le dit, dure un peu longtemps, bah, les femmes, on se sent souvent obligées d'en faire plus, en fait, puisque monsieur doit repartir travailler.
Il y a d'ailleurs un compte super intéressant sur Twitter qui s'appelle Charge Mentale Pédiatrie. Mm-hmm. C'est des internes en pédiatrie qui témoignent des phrases des papas qu'ils entendent. Et il y en a qui sont complètement délirantes. Enfin, des papas qui disent « Ah non, moi je sais pas ce qu'il a. Appelez ma femme, c'est elle qui sait. Le carnet de santé, il sait pas où il est. Il connaît même pas les symptômes. Il emmène l'enfant à l'hôpital sans savoir ce qu'il a. » Et du coup, en fait, les internes en pédiatrie témoignent de ça parce que c'est hyper visible, cette charge mentale liée aux enfants. Pour eux qui sont spécialistes, ça leur saute aux yeux en fait.
Et les hommes ont tendance à complètement se déresponsabiliser. Oui. Tout ce qui concerne les enfants ne les concerne pas. Et ils en ont rien à faire en fait, et c'est vraiment la femme qui gère tout. Et
comme
c'est...
si c'était inné pour les femmes, alors qu'on l'apprend tout autant que les hommes.
C'est un apprentissage.
En fait.
Enfin, moi, je suis pas médecin, je vois pas pourquoi je saurais mieux que toi. Enfin, j'ai pas c'est fait ça. D'études pour ça en fait, c'est du bon sens. Mais ils refusent.
Et quand bien même tu serais pédiatre, t'as quand même le droit de passer les nuits tranquilles aussi.
Oui, aussi.
C'est vrai que pour changer ça, enfin moi il y a un truc sur lequel on en a parlé tout à l'heure, mais j'aime bien revenir dessus, c'est cette histoire de congé paternité. Mmh. Moi je veux pas croire que si les pères étaient pas plus longtemps à la maison, ils ne s'impliqueraient pas plus aussi la vie de leurs enfants. Et je pense que justement, coucou les papas et coucou les garçons et les hommes, si vous pouviez un petit peu demander un congé paternité mieux rémunéré et plus long, je pense que ça aiderait vos femmes, vos compagnes pour voilà. Il faut savoir que par exemple Emmanuel Macron s'est opposé à ce qu'au niveau de l'Europe, il y a une mesure en ce sens-là qui soit appliquée.
On
adore Emmanuel Macron. plusieurs pays européens avaient proposé la mise en place d'un congé paternité individualisé, c'est-à-dire un par parent, père, mère, peu importe, rémunéré 50% du salaire, comme c'est le cas pour les congés maladie. Et Emmanuel Macron s'y est opposé parce que ça coûte trop cher.
Oui, ça coûte un pognon de dingue, toutes ces aides sociales, dis donc.
Alors qu'en plus, c'est le genre de choses qui pourrait régler des problèmes encore plus loin que ça, c'est-à-dire que si si les hommes avaient un congé paternité égal, déjà, il y aurait moins de discrimination à l'embauche des femmes, puisque pour l'instant, on le sait, elles sont hyper discriminées parce qu'elles vont potentiellement prendre un congé maternité, alors que si tout le monde avait un congé parentalité, on va dire, et ben du coup, cette discrimination-là n'aurait plus lieu d'être, en fait. Donc ça pourrait régler plein d'autres problèmes, même en dehors de la charge mentale, tout, ça va très loin, quoi.
C'est ça, pas juste, elle a 30 ans, peut-être qu'elle va s'arrêter pour faire un enfant, bah peut-être qu'un homme aussi va s'arrêter pour faire un enfant aussi.
Bien, bah du coup, en tout cas, bravo Aurore, moi j'ai adoré la réaction, et c'est très inspirant.
Continue,
j'ai pas encore d'enfant, mais je la garde de côté au cas où, quoi.
Ouais, on sait jamais, ça peut servir. On va passer à un autre thème, là, il n'y a plus d'enfants, c'est fini, avec Leïla, qui raconte en fait une histoire qui est arrivée pendant sa première relation sérieuse avec un mec un petit peu romantique, qui adorait genre lui préparer des dîners de Saint-Valentin et lui offrir des bouquets de fleurs, alors que elle, pas du tout, c'est une geek, ce qu'elle adorerait qu'on lui offre, c'est plutôt un nouveau clavier de gameuse. Du coup, ils se sont retrouvés, voilà, un soir, tous les deux chez lui, et voilà ce qui s'est passé.
On était tous les deux allongés dans le noir, sur son lit, et j'ai entendu un bruit bizarre derrière la porte d'entrée de l'appart. Donc, un peu inquiète, je lui ai demandé ce que c'était, et il s'est tourné vers moi, et il m'a répondu très sérieusement « Ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger ». Alors j'ai bouffé, mais genre pas du tout gentiment, et je lui ai dit qu'ils allaient probablement tuer en premier et moi ensuite, si j'avais de la chance. Sous-entendu, s'ils me violaient pas avant, quoi. Et tout ça s'est sorti naturellement, avec le petit sourire sarcastique qui va bien. Sur le coup, ça m'a rendu tellement dingue que quelqu'un présume que je suis une petite chose sans défense sur la base de mon absence de testicules que... Bon, voilà. On est restés 6 ans ensemble et il a plus jamais insinué que j'avais besoin de lui pour assurer ma sécurité ou pour quoi que ce soit d'ailleurs.
Je suis là pour te protéger, ne t'inquiète de rien.
Ah, mais j'adore. J'adore.
Incroyable.
J'ai pas pu m'empêcher, j'ai pouffé comme elle en fait en l'écoutant.
Bon, elle raconte aussi qu'il s'est vexé en fait au moment où elle a dit ça. En fait, il s'est retourné, il s'est endormi en mode.
Oh non.
Mais bon, la preuve que ça a marché parce que pendant 6 ans quand même, il a pas fait le héros. Et voilà, c'est souvent, on s'enferme souvent aussi dans des rôles en fait, dans des rôles très genrés. Le mec qui se sent obligé de faire le chevalier blanc qui va sauver sa princesse et puis la petite femme fragile. Non, on n'est pas toutes comme ça en fait.
Oui, et même au quotidien, la galanterie, genre je te tiens la porte, je te porte ta valise, tout ça, effectivement, dans un sens, on pourrait dire ça nous arrange parce que ça nous décharge un peu de quelques petits trucs, mais moi je préférais que mon mec il fasse la vaisselle plutôt qu'il m'ouvre la porte en fait. Enfin,
clairement.
Tu vois, c'est.
Non, puis en plus, nous, bizarrement, on tient la porte à tout le monde, quel que soit le genre. Enfin, je sais pas, moi, quelqu'un est derrière moi, je lui tiens la porte, que ce soit une femme, un homme, peu importe.
Ouais.
Donc c'est du civisme en fait, et ça devient du sexisme dès lors que c'est plus que pour les femmes.
Ouais,
c'est, ça peut être problématique aussi.
Ouais,
ça part d'une bonne intention, mais c'est du sexisme bienveillant.
Voilà, exactement, c'est ça. Voilà.
Et du coup, on va passer cette fois à Chloé. Donc Chloé, en ce moment, elle est en voyage en Indonésie avec son copain. Donc c'est un moment de fort rapprochement, hein, puisque forcément, ils sont tous les deux en huis clos. Et donc, elle nous explique que, de manière générale, au sein de son couple, c'est elle qui supporte la charge mentale dont on parlait au démarrage. Mais elle va réussir à se servir de la colère de son mec et de sa vexation pour faire avancer leur relation sur cette question. On l'écoute.
Dans mon couple, je suis quand même celle qui prend en charge toutes les choses dont on doit se rappeler. Je peux très peu compter sur lui pour se souvenir ou pour mettre des réveils, s'il faut se lever, c'est moi qui me lève en première, enfin voilà, ce genre de choses. Donc là, on rentrait d'une balade en scooter, il se demandait où mettre la clé du scooter. Je lui ai suggéré de le mettre sur la table de chevet en disant « t'as qu'à la mettre là ». Ce qui l'a mis profondément en colère, puisqu'il s'est senti infantilisé. Ensuite, on allait manger, il m'a quasiment pas parlé pendant 1 heure, et au bout 1 heure, j'ai crevé l'abcès, en lui disant, premièrement, que j'étais d'accord avec lui, que c'était infantilisant, et que j'étais heureuse, en fait, qu'il l'identifie. Parce que pour moi, sa colère, elle était positive dans notre couple, puisqu'on pourrait du coup commencer à arrêter d'entretenir ce type de rapport. Et je pense que ça l'a assez désarçonné. Je pense qu'il s'y attendait pas du tout, que je vois cette dispute sous un angle positif. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai rappelé que finalement, on était dans un schéma global qui concernait plein de couples et qu'on n'était pas différents des autres et que ce qu'on était en train de vivre, en fait, on pouvait ne plus le vivre un jour. Du coup, je lui ai rappelé qu'il était primordial, en fait, qu'il commence des lectures sur le sujet, puisque sans ça, rien n'avancera. Que c'est que en s'informant, en s'enrichissant intellectuellement, qu'il pourrait déconstruire ces types de comportements. Et c'est comme ça que le lendemain, il m'a dit qu'il avait lu un article du blog Crêpe Georgette. Ce qui, pour moi, est une énorme victoire.
Crème Georgette.
Alors, encore une fois, j'adore les réactions. Là, pour l'instant, de tous les témoignages qu'on a eus, je crois qu'aucune des réactions ne me serait venue spontanément. Mais là, le fait d'envisager effectivement la vexation de ton mec comme quelque chose de positif, parce qu'en fait, tu lui dis, bah, t'as identifié le problème. Mm-hmm. Ouais, c'est infantilisant, mais pourquoi, à ton avis, je t'infantilise là? Ouais. Parce que tu me demandes de le faire, en fait.
Et, ouais. Mais c'est ça que je comprends pas, parce que c'est lui qui lui demande. Et puis déjà,
c'est hyper contradictoire.
Il pose une question, mais il a besoin d'elle pour savoir où poser les clés. Mais pose pas la question, en fait.
Mais ouais, c'est ça, fais-le. Et puis, trouve un endroit où les poser. Et puis, tu me dis où elles sont éventuellement s'il y a besoin que je sache où elles sont. Enfin, c'est tellement futile au démarrage, mais du coup, ça soulève plein de questions intéressantes. Et notamment, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle dit, c'est la nécessité de déconstruire ses représentations et donc de se renseigner, de bouquiner, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un effort que, en tant que femme, on va être plus spontanément, on va le faire, parce que c'est des situations qui nous concernent, qui nous tendent, on va dire, au quotidien. Alors que si les hommes ne font pas non plus ce travail-là, bah, fatalement, on avance toute seule et finalement, la question, de manière générale, n'avance pas. Moi, je sais que c'est même un débat que j'ai eu avec des amis, hein, en disant, bon, tous les ans, on s'engueule sur le même sujet, sauf que moi, d'une année sur l'autre, j'ai continué de bouquiner, de lire des témoignages, etc., d'analyser un peu le sujet. Toi, pas. Donc, la discussion ne peut pas avancer. En fait, on doit y aller tous les deux ensemble, se renseigner et enrichir le débat, quoi. Donc, ça, je trouve ça super. Je trouve que Chloé, du coup, elle a super bien géré. Et du coup, j'en profite pour recommander, parce qu'effectivement, le blog de Crêpe Georgette, c'est un peu une référence dans le féminisme francophone. Moi-même, j'ai appris énormément en lisant son blog. Et parce qu'elle fait un gros travail de déconstruction, comme ça, autour de toutes ces notions-là, elle est perpétuellement harcelée, insultée en ligne. Donc, je vous invite à, au contraire, partager au maximum ses écrits, parce qu'elle traite de dizaines de sujets différents, hyper passionnants, et c'est super à envoyer typiquement à un mec après une engueulade pour essayer de déjà d'apaiser le sujet, mais surtout de le faire avancer pour pas que ça revienne éternellement.
Tu sais c'était quoi l'article qu'il a lu du coup?
C'était un article sur la charge mentale, je sais plus, elle m'a pas donné le titre, mais on pourra le retrouver et le mettre dans les liens.
Et moi ça me touche vachement hein, ce témoignage de Chloé, parce que moi je suis en couple depuis 13 ans, je fais mon coming out de vieille en couple, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est super difficile, parce que c'est quelque chose qui moi personnellement, ce genre de petits détails peut m'énerver au quotidien. Moi, typiquement, le point sensible, c'est la machine à laver, c'est faire les lessives, tout ça. Et c'est super difficile de pas réagir au moment, enfin de pas avoir une réaction violente et un peu nerveuse comme ça, et d'arriver à avoir une discussion constructive sur ce sujet, parce que moi, je suis comme Chloé, en fait, j'ai l'impression d'avoir réfléchi à ça depuis des années, et que le mec en face, il a
beaucoup de boulot,
il a un peu de retard. Alors lui, pour le coup, il se renseigne. La discussion est en route, mais c'est un très long chemin, c'est vrai. Hein. Enfin, mais
c'est ça, commencer par nous-mêmes déjà, être renseigné là-dessus. Déjà, ça nous donne des arguments.
Ça fait prendre conscience de certaines
en
choses.
Parler, quoi.
Ça fait
prendre... Déjà, oui, on change de regard sur ce qu'on vit. Ouais, sur même, comme tu disais, les schémas dans lesquels nous-mêmes on peut s'enfermer, hein, on n'est pas toujours passive dans les schémas sexistes qui s'installent, mais en plus ça te donne des arguments pour pouvoir avoir du poids, donner du poids à ce que tu dis, à ton ressenti, et dire effectivement tous les couples vivent ça, comme elle le dit, on n'est pas seul dans ce cas, c'est pas tu as un problème, qui me pose problème, c'est ça vient de constructions sociales qu'on peut déconstruire, quoi.
Et beaucoup plus large que ce qu'on pense, parce que moi j'en ai discuté quand même pour préparer l'épisode avec pas mal de copines, pour leur demander un petit peu si elles avaient des façons qu'elles ont eu de résoudre ce genre de soucis, de conflits ménager. Et la plupart des réponses spontanées des copines, c'est ah non, mais moi dans mon couple, ça va très bien, on répartit à 50-50. Et quand on commence à discuter, on commence à donner des exemples fait, de témoignages qu'on a reçus, des choses qu'on a entendues. Ah oui, là, c'est vrai que, par exemple, ce truc de la machine à laver, ça m'est arrivé la semaine dernière en discutant avec une copine, elle me dit maintenant que tu me dis. C'est vrai que la machine à laver, eh ben le blanc et la couleur, il comprend pas pourquoi faut les séparer.
C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est très niveau maternel, je pense.
Et du coup, quand on en discute et quand on approfondit, il y a toujours des petites choses comme ça. On n'est pas encore arrivé à destination de la société égalitaire.
Mais on est là pour la faire.
Mais on est là pour vous.
Et juste, moi, je voulais rajouter, je trouve que c'est intéressant parce que ce qu'elle a fait un peu spontanément, en fait, c'est une forme de communication non violente dont on va parler un peu plus tard. Et par ailleurs aussi, ça met le doigt sur le fait que les hommes aussi pâtissent du patriarcat, et en fait dans le sens où ils sont à la fois animalisés parce qu'on leur dit vous êtes des sauvages, vous pouvez pas vous retenir, vous avez des pulsions sexuelles tout le temps, machin, bah c'est horrible d'avoir, enfin si moi j'avais cette image de moi-même, je serais pas du tout sereine avec moi. Et en plus de ça, on les infantilise effectivement. T'es pas capable de faire une machine à laver, t'es pas capable de te nourrir, de faire à manger. Enfin, c'est quand même surréaliste. Donc en fait, ils ont tout à gagner en réalité, même si évidemment ils perdent des privilèges, mais ils ont quand même tout à gagner à déconstruire ça avec nous, en fait, ensemble. Hein,
tout se passerait mieux sans patriarcat, en fait. Hein. Je sais pas pourquoi on s'est fait chier à monter ce système en place. S'il vous plaît, expliquez-moi.
Ça a permis 2-3 trucs quand même. Hein.
Est-ce que Emmanuel Macron pourrait nous expliquer ça?
Oui, pourquoi tu l'entretiens, s'il te plaît, Manu?
Oups.
Bon, on va continuer un peu à parler avec notre nouvelle témoin, Cassandre, de cette répartition un petit peu du homme-femme. femmes, mais plus sur le côté des sentiments, en fait. Nous, les femmes, on a souvent la charge émotionnelle et sentimentale aussi de comprendre pourquoi une relation marche, ne marche pas. On intériorise beaucoup. Voilà, Cassandre, elle est bisexuelle et polyamoureuse, c'est-à-dire qu'elle peut mener de front plusieurs relations amoureuses en même temps, ce que je trouve est très fort et demande beaucoup de communication.
Déjà une, c'est compliqué.
Voilà. Et demande beaucoup de communication entre les différents partenaires. Mm-hmm. Et là, donc, dans ce témoignage, elle va parler d'une des deux relations dans laquelle elle est actuellement. Et voilà, elle s'est rendue compte, en fait, que lui, dans cette relation polyamoureuse, il avait tendance à multiplier les conquêtes, en fait, à avoir un rôle très, voilà, de mec qui baise un peu partout. Alors qu'elle, de son côté, se sentait un peu jalouse et un peu en colère, et en même temps se sentait coupable de sentir en colère et jalouse. Et donc là, entretenir finalement, malgré le polyamour, malgré la communication qu'il faut mettre en place pour ce genre de relation, entretenir un schéma un peu sexiste et très cliché finalement, qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle romantique américaine, du mec qui va coucher à droite à gauche et de la meuf qui se morfond dans son coin. Et elle s'est posé la question, est-ce que là, on n'est pas en train de reproduire finalement des clichés sexistes? Et donc elle a commencé à réfléchir donc avec ce mec à des outils de communication qui permettraient de réfléchir à ça, justement, au sentiment. On est vraiment là dans l'ordre du sentiment, de la relation, du relationnel. Mmh. On n'est plus du tout sur le ménage ou quoi du tout. Et elle a donc mis en place des outils de communication, dont un qui est inspiré du BDSM, donc
du sadomasochisme. Voilà. Non, je crois que c'est plus d'actualité comme terme.
Ouais, c'est plus, voilà, de certaines pratiques sexuelles, qui est en fait le safe word, c'est-à-dire qu'à un moment où on sent plus ce qui se passe, on dit un mot et on arrête tout. Et ça, donc, elle a appliqué à sa relation sentimentale, et on écoute ce qu'elle raconte.
Quand on est dans une discussion, et notamment quand on parle de nos autres histoires d'amour ou sexuelles, ou amicales, mais très très fortes, et que ça peut faire surgir chez lui ou comme chez moi des choses douloureuses, ou nous renvoyer à des traumas, ou à des inconforts, ou à des situations pas cool à gérer, parce que ça renvoie à nos propres failles. Un mot qu'on dit, le nôtre par exemple, c'est voie lactée. À partir du moment où quelqu'une le prononce, tout s'arrête. On arrête notre discussion, on se pose, ok, ça veut dire que c'est le moment de prendre soin de nous, c'est le moment de faire attention à lui, à moi, à notre relation, et de se reconcentrer sur notre relation. Et du coup, ce truc de prendre soin, ça a aussi été vachement important, parce qu'au début, il le faisait pas tant. Clairement, son conditionnement de mec ne l'incite pas à faire ça. On lui a jamais appris. Il ne sait pas faire. Mais pour autant, c'est pas parce qu'il ne sait pas faire qu'il ne l'a pas appris que je ne suis pas légitime à avoir ce besoin dans cette relation hétéro. Je trouve que c'est la grande, grande joie du féminisme, et c'est pour ça que, enfin, c'est notamment pour ça que ça a du sens pour moi de le faire, et que l'enjeu, il est ultra puissant. C'est que finalement, nos conditionnements impliquent des comportements, et des comportements, ça se change, et ça, c'est, je trouve ça juste merveilleux. C'est dire que moi, je suis remplie de comportements que j'aime pas, qui ont été conditionnés par une société avec des valeurs avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais pour autant, les comportements que ça implique, je peux les changer. J'ai le pouvoir de le faire. Et lui aussi. Et dans notre relation, dans cette relation d'amour hétéro, en tout cas, je le vois, ça change quasiment jour par jour.
On a vu Anaïs lever les bras au ciel, genre alléluia. Bah
oui, merci, merci, j'aime entendre ça. Non, je trouve génial le fait que, elle remet en question ses propres comportements. Ouais. Si nous, on en est capable, a priori, tout le monde l'est. Il y a pas de verrou chez les hommes qui ne serait pas là chez les femmes. Donc je trouve ça top, le raisonnement qu'elle tient, et puis le fait de prendre, on en revient au self-care, hein, en installant ça, elle prend soin d'elle aussi au sein de sa relation. Donc c'est top. Bravo.
Faire parler à un mec de ses relations, de ses sentiments, de comment il voit la relation amoureuse, tout ça.
C'est hyper optimiste et ambitieux, je trouve. Donc c'est beau.
Yeah. Carrément, franchement, bravo.
Bravo, Cassandre.
Bonne idée.
Alors, autre chose qu'elle a fait aussi pour amener justement ce garçon-là à parler de ses sentiments, c'est lui offrir la BD Les Sentiments du Prince Charles, que malheureusement je n'ai pas encore lu.
M'a offert à Noël et que je vais te prêter bientôt.
Ouais, très, très bien. Hâte. Qui parle justement
de la construction, en fait, de la relation hétérosexuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, et du rapport des hommes aux émotions et des femmes aussi aux émotions. C'est-à-dire qu'on nous apprend dès petites à s'occuper des autres, à toujours anticiper les besoins des autres, etc. Alors, alors qu'un homme, on lui apprend à penser à lui et à son avenir et à être super déterminé, aller tout droit, foncer, ne pas regarder derrière lui, etc. Et donc ça crée des relations complètement dysfonctionnelles et complètement inégales justement entre la maman, le papa, le petit garçon à qui il s'identifie par rapport à tout ça, la petite fille et tout ça. Donc vraiment, cette BD est super bien expliquée. On vous mettra aussi le lien en description.
De Liu Strömsgård.
Oui, c'est une norvégienne, je crois. Voilà. Je peux pas dire de bêtises.
Compliqué.
Voilà, que vous pouvez donc acheter ou emprunter à la bibliothèque.
Incroyable.
Et il paraît qu'il y a même des gens qui se séparent de leur mec
après avoir lu ça. Ouais, on m'a raconté True Story.
Du coup, j'en connais qui vont éviter de l'offrir, la BD.
C'est un peu tendu. Voilà, donc maintenant, on va écouter Mathilde. Donc Mathilde, elle a deux enfants avec son compagnon, avec qui elle est depuis plus de 10 ans, presque 15 ans. Récemment, elle s'est sentie un peu au bord du burn-out. En fait, elle en pouvait plus de tout faire à la maison. Elle avait aucun temps pour elle parce que, évidemment, la répartition des tâches était très inégale entre elle et son mec. Et elle a eu une idée, franchement, de génie. Donc, je vous laisse écouter.
Et j'avais pas de temps du tout pour moi, quoi. Et je voyais mon mec, lui, il arrivait à trouver du temps pour lui. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais double journée, voire même triple, hein, c'est-à-dire la journée de travail, la journée des tâches domestiques, et puis la troisième, genre la femme voilà, qui doit se faire belle, s'épiler, se coiffer, voilà. Et dans ma tête, je me suis dit, voyons, où c'est que je peux me dégager du temps, et lui, il se démerdera avec ses trucs. Et donc, j'ai décidé d'entamer ce que j'ai appelé la guerre des caleçons sales. C'est-à-dire que j'ai arrêté de lui laver ses fringues, quoi. Donc, ça m'a bien fait marrer et je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit parce que je voulais qu'il y ait une prise de conscience et qu'il se retrouve avec rien à mettre et qu'il se dise, mais comment ça se fait? Je comprends pas. La machine marche pas toute seule. Les caleçons sales ne vont pas toutes seules à la machine. Donc, effectivement, ça m'a libéré du temps. Et je me suis bien marrée, en fait, parce que le matin, je le voyais, il arrivait, il comprenait pas, il n'y avait pas de caleçon propre et ses affaires n'étaient pas propres et rangées dans le placard, comme d'habitude. Il comprenait pas, et puis ça a duré longtemps parce qu'il est long à la détente. Donc, au bout d'une semaine, il me dit « Mais tu fais plus de machine ?» Je fais « Non, je fais plus de machine. Je me libère du temps, mon chéri, et je ne te fais plus tes machines, donc démerde-toi. » Bon, le positif, c'est qu'après, on a beaucoup parlé, on a parlé de la répartition des tâches, que moi, j'en pouvais plus, que j'avais beaucoup de choses sur moi, hein, ce qu'on appelle la charge mentale, et que je voulais pas tout faire. Et voilà. Et donc maintenant, on a réparti, il y a des choses dont je m'occupe plus du tout, et je sais même plus comment ça fonctionne, et je me demande même plus comment ça roule. Et lui, inversement, et les tâches sont bien réparties, et voilà. Donc la guerre des caleçons sales a marché. J'ai gagné, j'ai triomphé. Et c'est un conseil que je donne à beaucoup d'amis quand elles me disent « Oui, mais mon mec, il fait rien à la maison. » Je fais « voilà, tu peux commencer par ça et tu verras, tu vas bien rigoler. »
J'adore.
Ouais, je l'ai fait, confession.
Et alors ?
Double coming out aujourd'hui.
C'est ça. Je l'ai fait, ça a pas trop mal marché, ouais. Ça a pas trop mal marché. Après, je pense qu'on partait quand même de moins loin que ça, parce que déjà, on n'a pas d'enfant et que c'est quand même pas du tout la même chose. Mais comme je dis, il y a toujours un mystère autour de cette machine à laver. Et ça marche, ça, voilà.
Oui, c'est vrai que si on se dit, il fait pas assez, commencer par arrêter de faire soi-même, semble... Enfin, maintenant qu'elle me le dit, ça me semble juste logique de faire.
Par contre, faut faire attention parce que arrêter de faire, ça peut vouloir dire que ton appart se transforme en porcherie.
Oui, aussi, faut pas que ça te laisse.
Il n'y a pas de raison qu'on doive subir ça, en fait.
Exactement.
Il y a quand même une limite à... voilà.
Dans mon cas, c'était vraiment que autant le ménage, la vaisselle, tout ça, ça va. Autant, voilà, c'était vraiment ce truc, uniquement la machine à laver, c'est quoi ce truc, quoi.
Peut-être parce qu'on dirait un ventre, c'est rond, du coup, ils se disent ça, c'est pour
Je pense qu'en plus, il y a une surévaluation des mecs quand ils font un truc. Moi, je me rappelle qu'avec mon ex, on avait défini que celui qui cuisinait ne faisait pas la vaisselle. C'était, tu vois, le deal était là. Et je me rappelle d'une semaine où j'avais pas arrêté de cuisiner et que pour autant, j'avais quand même fait la vaisselle quelques fois en me disant, allez, il est un peu malade et tout, j'avais envie de lui faire plaisir. Mais j'ai quand même eu droit à un scandale parce qu'il a fait trois fois la vaisselle et j'étais là, non, mais tu surestimes complètement ta participation au deal en fait.
Wow.
Enfin, c'est pas normal, j'en ai déjà fait trop et tu oses venir râler. Donc je pense qu'aussi dès qu'ils font un truc, bon déjà, bon, je sais que mes ex, dès qu'ils faisaient un truc, il fallait que je le dise quoi.
Faut une médaille.
Faut que je le félicite, faut, c'est bien, merci. Le remercier de quoi d'ailleurs ? Je sais pas, mais en tout cas,
je le faisais. Merci, mais merci dans l'autre sens aussi.
Oui, voilà, ou alors c'est dans les deux sens, mais là en l'occurrence c'était que dans le mien pour valoriser l'acte héroïque quoi. Et du coup, il y a une espèce de. Oui, comme on les a pas habitués, nous gamines, la plupart des petites filles ont eu des responsabilités à la maison en fait. Et la plupart des frères, souvent, n'en ont pas eu. Donc en fait, vraiment, on grandit, ils grandissent en se disant quand ils se mettent à faire quelque chose, c'est vraiment un effort surhumain.
Incroyable.
Alors que nous, on a appris à faire ça, mais on parlait du fait qu'on avait appris et que pour autant, on peut désapprendre ou on l'a pas appris et on peut apprendre. Donc. Je sais pas trop où je vais avec cette réflexion. Mais
voilà. Non, mais tout à fait. Et je pense que vraiment la base du truc, c'est la discussion en fait.
Oui.
C'est d'arriver à en parler parce qu'en fait, on a l'impression qu'on se met en couple, on vit ensemble et tout doit aller naturellement parce que c'est oui. l'amour et que ça va forcément bien se passer.
Non, ça ne suffit pas.
Non. Quand on entre dans une colocation avec des gens qu'on connaît plus ou moins, il y a des règles en
très
fait
précises ouais.
sur comment on tient la maison, quelles sont les exigences minimum en termes de propreté, tout ça. Mais en fait, je pense que dans le couple, en fait, c'est une discussion qu'il faut avoir aussi
oui,
en fait. Parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes exigences. En tant qu'individu, à quelle fréquence faut ranger, à quelle fréquence faut nettoyer, tout ça, il faut qu'on se mette d'accord dessus, quoi. Mm-hmm. Pas estimer que de toute façon c'est ça va aller de soi. Non,
non.
Ça va pas de soi quand on vit en communauté et à deux c'est déjà une communauté, une bande même on pourrait dire. Il faut instaurer un minimum de règles. Et si on l'a pas fait, ben pourquoi pas quantifier en fait. Nous on l'a fait un peu aussi, essayer de quantifier quelles tâches chacun fait, quelles tâches chacun prend en charge.
Ouais,
bah. Et ça marche. Pas pour magiquement, mais au moins ça permet de prendre conscience un petit peu, ben tiens, telle tâche, finalement c'est toujours moi qui la prends en charge, ou telle tâche, je la prends jamais en charge.
Ben, au moins les déséquilibres deviennent visibles.
Ça devient visible, et pourquoi pas si jamais, ça c'est le cliché un peu, mais si on sait par exemple pas bricoler, bon, ce qui est pas mon cas, parce que souvent moi je bricole, mais apprendre aussi à faire les choses qu'on ne sait pas faire et qui
bien
sont
sûr.
Du domaine, entre guillemets, du masculin comme bricoler. Enfin, apprenons aussi à bricoler et,
ah ben moi,
et changeons
couples,
nos tâches.
J'ai toujours été la bricoleuse, moi je suis toujours tombée.
Moi aussi, ouais.
Mais,
ouais, j'avais lu quelque chose, alors je sais plus exactement où, c'est peut-être sur un blog ou peut-être sur un bouquin, que en fait il faudrait dans un couple ou dans une colocation que tout le monde sache tous faire et remplacer au pied levé l'autre en fait.
Oui.
Et que par exemple quand quelqu'un est malade ou doit s'occuper des enfants ou si ou ça, et ben on peut s'échanger les tâches en fait.
Oh, ça serait beau ça.
Eh ben, travaillons-y.
Oui, allons-y.
Let's go. Et puis des fois, ça ne marche pas du tout.
Non.
Malgré tout ce qu'on peut faire, ça ne marche pas.
Alors, il existe une solution efficace.
Il existe une solution efficace et radicale.
Couper la tête.
On peut couper la tête, ouais. Ou alors sinon, avant de couper la tête, il y a une autre chose qu'on peut faire. Alors ça, c'est un témoignage qu'on a reçu de Valérie, qui nous envoie son témoignage, que malheureusement, on n'a pas reçu en audio. Donc je vais lire ce qu'elle nous raconte. Quand tu n'as pas confiance en toi, que tu te sens comme une merde et vraiment pas le moral, quand tu es en société et que ton mec te dit, alors que tu viens juste de parler, « Mais tu racontes vraiment n'importe quoi !» Très très fort. Penaud, tête basse, tu fermes ta gueule. Tu es tellement rabaissé par lui que tu n'as même plus le courage de rétorquer, de résister, d'esquisser un doigt, d'ouvrir la bouche. Je suis désolée, j'ai pas résisté, mais j'ai divorcé. Et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça.
On paf.
Bam. Voilà. Voilà.
Radical.
Avant l'étape couper la
simple,
tête, il y a l'étape
efficace.
Divorce.
Bah oui, mais parce que c'est vrai que le truc de résister en couple, ça, c'est hyper compliqué, c'est hyper usant.
Fatigue. Ouais.
Donc effectivement, on peut aussi ne juste pas avoir envie de s'imposer ça, d'essayer de ne pas avoir envie d'éduquer l'autre ou de le faire avancer et juste dire en fait, ça ne me correspond pas, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Salut.
Stop.
C'est ça.
Et là, en plus, on est dans autre chose, c'est-à-dire elle était avec un homme qui la rabaisse visiblement.
Oui, en plus.
Voilà, qui la considère pas comme une personne
ouais.
ou comme son égale. Donc dans ces cas-là, en fait, finalement, plutôt que de vivre une relation comme ça, des fois, on est mieux toute seule.
Ben ouais, et du coup, il y a beaucoup de femmes qui m'en ont parlé parce que quand j'ai posté l'appel à témoignage sur Paytachnek, il y a eu plein de commentaires de femmes qui y sont allées de leurs petites anecdotes. Donc, je vais pas les lire parce que, bon, voilà.
C'est
mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui nous ont dit avoir quitté leur conjoint. Donc, voilà, quand on sent que ça peut pas évoluer, que le dialogue est compliqué ou que la relation est vraiment oppressive, comme on en parlait juste avant, quoi. Ben, la meilleure façon, c'est de se préserver et de s'éloigner de la personne qui oppresse, en fait.
Ciao.
C'est mathématique. On a aussi pas mal de personnes qui nous ont parlé du fait que les mecs, au moment de participer aux tâches quotidiennes, disent à leur conjointe qu'ils les aident. Alors, non. Le travail à la maison, c'est pas le travail de madame, on ne l'aide pas, on participe juste à la vie commune. Donc c'est super agaçant, en pensant faire bien, là on enfonce le clou, donc on évite de dire ça. On évite aussi de dire qu'on essaie. On n'essaie pas de passer l'aspirateur, on le passe. En fait,
applique-toi.
Il y a un taux d'échec quand même très bas.
En général,
sur ces tâches-là.
Concentre-toi, applique pas.
Voilà,
toi,
on n'a pas besoin d'échauffement, c'est sans douleur en général. Donc on y va, on n'essaie pas, on le fait. Et enfin, un autre sujet soulevé que j'ai trouvé génial, et moi j'y avais jamais pensé, mais le fait d'instaurer le partage des coûts de la contraception. Mmh. Il y a pas mal de femmes donc, qui nous disent il n'y a pas de raison pour que ce soit totalement à ma charge. Déjà que le suivi médical et la régularité, parce que quand on prend la pilule, bah, ouais. encore une fois, charge mentale, c'est à toi de penser à la prendre.
Mmh. Et à prendre tes rendez-vous tous les ans pour te la faire represcrire. Mmh.
Voilà. Et donc tout ça, c'est à la charge de la femme. Donc la charge financière, bah, pourquoi pas la partager. Donc moi, je ne m'étais jamais posé la question, mais maintenant qu'elles m'en ont parlé, ça me semble juste absolument logique. Et la prochaine fois que je serai en couple, je suis déterminée à faire partager
ces frais-là. Fais un
chèque. Va voir le pharmacien et donne-lui des sous.
Donc c'est top, merci beaucoup.
Ou la pharmacienne.
Pour tous les exemples, pour tous les témoignages que vous nous avez donnés, parce que c'est hyper inspirant pour nous aussi.
Merci à toutes.
Et du coup, on passe à la rubrique... Ça fait du bien.
Bah, Marga, tu voulais parler rapidement de
Ah oui,
de self-care,
mes idées,
en intro.
Voilà, on en a parlé un peu très très rapidement entre nous. Mais c'est vrai que moi, mon self-care dans le couple, c'est de prendre du temps pour moi. Je sais que c'est pas possible pour toutes, notamment pour celles qui élèvent des enfants. Mais voilà, de temps en temps, déjà avoir mes activités à moi, où lui ne viendra pas, voilà, chasse gardée. Et parfois, de temps en temps aussi, pourquoi pas, d'avoir une semaine toute seule. Alors moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, justement, et finalement, j'appréhendais beaucoup. Et finalement, j'ai beaucoup aimé, parce que ça permet de se retrouver seule chez soi, de voir des amis qu'on voit moins ou qu'on voit peu, parce que ben, c'est pas les mêmes amis que ceux qu'on voit ensemble. De faire des choses qu'on fait pas à deux, et ça fait du bien aussi de se retrouver comme ça, et ça permet de se retrouver aussi en tant que personne toute seule et de prendre des décisions toute seule sans avoir besoin de dire tiens je vais faire ça mais je vais lui demander d'abord s'il a pas prévu un truc ou si ça lui dirait de venir. Non, là juste t'as envie de faire un truc, tu le fais.
Puis même quand, c'est sain dans un couple d'avoir des moments où tu te manques, en fait.
Ouais, complètement.
C'est
ouais.
hyper important.
Ouais, mais il a pas eu le temps de me manquer en une semaine.
Oh merde. Si tu nous écoutes,
sorry,
je t'aime.
Bon, ok, merci Marga. Du coup,
je vais pas m'en remettre de celle-là.
Moi, j'ai décidé de parler aujourd'hui de communication non violente ou communication bienveillante. Alors c'est tout un truc, hein, y a vraiment un historique, etc. N'hésitez pas à regarder sur Wikipédia si vous voulez les infos genre historiques, mais moi je vais vous parler plutôt du concret. Donc moi c'est quelque chose que j'ai découvert lors de l'événement WeTalk qui a eu lieu il y a quelques années à Paris, d'ailleurs où j'ai rencontré Anaïs pour la première fois.
Oui.
Oh, et il y avait votre rencontre.
Moment émotionnel.
Il y avait donc une spécialiste canadienne de la communication non violente qui était venue. Elle avait fait un atelier et moi ça m'avait beaucoup marqué. Ça m'avait semblé être une approche tellement éloigné de ce qu'on a l'habitude de faire en fait pour gérer les conflits, notamment dans un couple, mais aussi en famille ou avec les amis ou autre. Hein. En gros, c'est un outil de communication qui est principalement verbal et qui vise à transformer les conflits en simple dialogue. Donc je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Hein. Donc ça permet surtout en fait d'économiser de l'énergie, parce que quand on s'énerve, concrètement, enfin, on se fatigue très vite.
Ouais, je sais.
C'est une émotion très très négative qui bouffe beaucoup beaucoup d'énergie. Et en plus, la technique permet normalement, si on a une personne normale en face de nous, de déclencher de l'empathie et que la personne ressente un peu ce que vous ressentez et du coup se responsabilise et ait envie de faire un pas vers vous en fait. Donc évidemment, encore une fois, ça dépend de la personnalité qu'on a en face. Hein. Ça marchera plus ou moins bien.
Avec Emmanuel Macron, par exemple, ça marche moyen.
Avec les sociopathes, c'est compliqué. Donc, l'idée, en gros, c'est d'abord de se concentrer dans un premier temps sur ce qu'on ressent, nous, sur ses propres besoins. Et franchement, c'est pas toujours facile parce qu'on a du mal en tant que femme à le faire, parce qu'on nous apprend, encore une fois, depuis qu'on est toute petite, à s'occuper des autres. Du coup, c'est pas toujours facile de se demander vraiment, moi, qu'est-ce que je ressens, en fait, et de quoi j'ai besoin. Donc, plutôt que de faire des reproches et des accusations, même si les accusations peuvent être totalement légitimes, hein, je dis pas que vous avez pas raison d'engueuler votre mec ou quoi que ce soit, mais c'est juste que quand on fait une remarque sur le ton du reproche, la personne en face, souvent, ça va déclencher une réaction puérile de sa part. Elle va se sentir très attaquée. Ça va réveiller son enfant intérieur et du coup, il va se comporter comme un gamin de 4 ans alors que c'était pas le but à la base. Du coup, la technique, elle repose sur 4 étapes. La première étape, c'est observation, c'est-à-dire décrire la situation en des termes d'observation partageable. Par exemple, la vaisselle est sale alors qu'elle était censée être faite ce matin. Ensuite, il y a sentiment et attitude. Donc là, c'est exprimer ses sentiments et les émotions suscitées dans la situation. Par exemple, je me sens fatiguée. Ensuite, on va parler de notre besoin. Donc là, par exemple, parce que j'ai besoin de vivre dans un endroit sain, dans un endroit
propre ou parce que j'ai besoin de m'organiser. Alors là aussi, les besoins, il y a un milliard de besoins auxquels on ne pense pas forcément. Si vous voulez essayer d'avoir des idées de besoins que vous pourriez avoir, parce que finalement, encore une fois, comme on ne se pose pas ces questions, ce n'est pas évident. Je vous mettrai des liens aussi sur la communication non violente. Ils font toute une liste de types de besoins dont l'être humain a besoin. Donc ça, c'est vraiment des trucs de psychologie, hein, mais je pense que c'est assez universel. Ensuite, il y a la demande. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire une demande qui respecte les critères suivants. Donc il faut qu'elle soit réalisable, concrète, précise et formulée positivement. Et si c'est possible, que l'action soit faisable dans l'instant présent ou en tout cas rapidement, quoi. Donc là, la demande, ça pourrait être « je voudrais savoir si tu comprends » déjà, premièrement, et ou si tu serais d'accord pour tenir tes engagements la prochaine fois. Ou si tu serais d'accord pour faire la vaisselle maintenant, par exemple.
Il n'y a pas match de foot à la télé.
Ouais, j'avoue, c'est dilemme. Mais donc voilà. Donc, moi, c'est une technique, honnêtement, que j'ai testée quelques fois. Ce n'est pas toujours facile parce que l'idée, c'est que ça devienne un peu un réflexe, en fait. Ouais.
Quand tu es déjà énervé, c'est compliqué de déconstruire.
Voilà. Après, ce qu'on peut faire déjà, si on sent qu'on est énervé, c'est par exemple sortir, faire un tour pour se calmer, première étape, parce qu'on sait qu'on ne va rien sortir de bon dans cet état-là. Mais en tout cas, si vous arrivez, vous sentez la force de le faire, essayez, ne serait-ce que pour un test, la prochaine fois que vous êtes un peu agacé ou quoi, essayez donc vraiment de vous poser la question de qu'est-ce que vous ressentez et de formuler une demande claire sans avoir des phrases de reproches et d'accusations. Donc en général, les reproches, ça commence par « tu fais toujours ça » ou « tu fais jamais ça »,« t'es toujours en retard »,« tu fais machin ». Et encore une fois, même si c'est vrai, là, je ne remets pas en question le fait que ce soit vrai ce que vous avez à reprocher. Mais c'est juste que ça ne va pas, dans son cerveau, ça ne va pas faire l'effet dont vous avez besoin au final.
Il vaut mieux parler à la première personne. Donc
voilà, parler à la première personne, dire vraiment « je ressens ça, j'ai besoin que machin ». Et ensuite, une demande précise. Donc voilà, bah écoutez, essayez si vous en avez l'occasion et dites-nous ce que ça a donné.
Mmh. Ouais.
On sera curieuse de voir si ça marche pour vous ou pas.
Ouais. Je vais essayer moi déjà, hein, parce que... Voilà.
Mais au final, je trouve que dans les témoignages qu'on a eus, il y en a plusieurs qui l'ont fait de façon assez intuitive et spontanée.
Ouais, ben genre Chloé Aurore, aussi. Ouais. Hein.
Ou Aurore avec l'histoire du biberon, là, ça c'est...
Voilà. Ouais, ouais, ça marche
bien.
Elle
a dit clairement les choses et voilà. Donc voilà.
À appliquer au plus vite, pour celles qui ont des bonnes raisons de l'appliquer. C'est pas mon cas.
Ok, ce soir. Chérie.
Bon, c'est la fin de cet épisode, ça passe toujours trop vite.
Ouais.
Merci encore à toi, à vous de nous écouter, on ne sait plus.
Je peux dire un merci aussi à Emmanuel Macron pour sa participation involontaire comme punching ball.
Oui, c'était son épisode là. C'était, on choisira quelqu'un d'autre la semaine prochaine au sein du gouvernement.
On va dire qu'on est orienté politiquement.
Oui, c'est vrai. Bon, en même temps, c'est
un
le gouvernement.
Tout petit peu. Oui.
On remercie mille fois nos warriors du mois pour leur témoignage. Donc Chloé, Cassandre, Leïla, Mathilde et Aurore, bravo à vous, vous pouvez être fiers de vous.
Ouais.
Et vous nous inspirez toujours plus. Le mois prochain, on va parler de sexisme sur internet. Donc si tu as déjà mouché le misogyne croisé sur Facebook, que tu as déjà contacté les parents d'un harceleur sur Twitter, Snapchat ou Instagram, ou même que tu as juste trouvé la parade aux commentaires sexistes, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Et tu peux du coup d'ores et déjà nous envoyer ton témoignage de glorieuse victoire à warriors@yespodcast.com. Yes, toujours avec 3S. On remercie notre producteur Julien de la Podcast Factory ainsi que notre réalisatrice Amida.
Merci Amida. Tonnerre d'applaudissements.
Oui, Amida. Si tu as passé un bon moment à nous écouter, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @yespodcast. Tu peux aussi nous écouter sur toutes les plateformes, de iTunes à Spotify, en passant par Podcast Addict, etc., etc.
Celles qui n'existent pas encore.
Et celles qui n'existent pas, on y sera. Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu as un pouvoir immense. Personne n'a le droit de te marcher dessus.
Personne. Non, nobody.
Tu es la plus forte et tu nous aspires un peu plus chaque jour. Bref, meuf,
exactement.
T'es une warrior.
Ouais, yes.
Et bonne année.
Bonne année.